Bonjour à tous et à toutes, Didier Delatte sur IDFM, culture, solidarité, environnement, il s'en passe de belle dans notre département et c'est ici et maintenant dans notre rendez-vous compte, évidemment.
J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous êtes bien gentil, vous chantez pour médecin sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs ?» Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis, on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Pour l'instant, il ne s'agit pas de mecs qui cherchent une cantine, à qui je fais appel, mais de mecs qui veulent bien la sponsorer. Voilà.
Aujourd'hui, avec cet enregistrement historique de Coluche sur Europe 1, le 26 septembre 1985, on passe à table avec mes trois invités auxquels je vais demander de se présenter.
Donc, je suis Jean-Michel, père, je suis le président des Restaurants du Cœur du Val d'Oise.
Marie-France Ligeret, je suis la secrétaire départementale de l'association du Val d'Oise, des Restos du Cœur bien sûr, et responsable de la communication.
Donc Gérard Desnaux, responsable des dons et des collectes pour le Val d'Oise.
Qu'est-ce que ça vous fait de réécouter cet appel de Coluche ?
Pour nous, c'est quand même à la fois émouvant et très fondateur. C'est notre référence à tous et c'est vraiment le point de départ. Sans lui, rien n'existerait, même si sans nous, ça n'existerait plus. Mais c'est quand même...
Ça, c'est votre slogan, je crois.
Oui, c'est ouais, absolument.
Ouais. Voilà. Alors, est-ce que le portrait de Coluche, la photo, est toujours affiché dans vos centres ?
Elle est affichée partout.
Voilà, belle photo. Alors, puisqu'on est encore une fois dans l'iconographie, est-ce que vous pouvez nous décrire le logo des Restos du Cœur ?
Le logo des Restos du Cœur, ça représente... Parce qu'au départ, les Restos du Cœur, c'était la distribution alimentaire. On verra plus tard que c'est beaucoup plus que ça maintenant. Mais ça représente une assiette, des couverts et le tout dans un cœur, puisque, en fait, c'est lié à notre nom.
Sans refaire toute l'historique de l'histoire des Restos du Cœur, il y a quand même quelques étapes clés, notamment, je crois que vous vouliez parler de ce qu'on a appelé la loi Coluche.
Alors effectivement, peu de temps après la création des restos par Coluche, en 1988, a été instaurée la loi Coluche, qui est une loi dont bénéficient pas seulement les Restos du Cœur et les personnes accueillies par les Restos du Cœur, mais tous les donateurs à des associations qui font de la distribution alimentaire peuvent déduire 75% de leurs dons, de leurs impôts. Donc, c'est pas de leurs revenus imposables, de leurs impôts. Et dans la limite d'un plafond qui a été porté récemment à 1000 euros par foyer fiscal.
Ce qui fait que si vous faites un don de 100 euros, ça ne vous revient en fait qu'à...
à 25 euros.
Voilà. Donc ça, faut le savoir parce que c'est quand même un avantage très très intéressant obtenu grâce à Coluche et qui bénéficie à plein d'associations. Alors, autre tradition, autre must, si on peut dire, des Restos du Cœur, c'est la chanson des Enfoirés. Elle a été créée la première année, hein, je crois. D'ailleurs, on va la réécouter dans quelques instants. Créée par qui ?
Jean-Jacques Goldman, ça a été le créateur de voilà. Tout ce qui est autour des restos en termes de manifestations, les Enfoirés.
Avec des personnalités, d'ailleurs Coluche, je crois, chantait lui-même, et puis d'autres personnalités, super.
Moi je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés. De l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nous nous peut-être grossir la liste.
Ta-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da.
Et d'ailleurs, on entendra également la dernière chanson, la dernière version de cette chanson. C'est toujours le même texte, j'imagine ?
Non, pas du tout. La chanson, la première, créatrice, ça, c'est véritablement le cœur de la mission des Restos du Cœur. Et ça, c'est effectivement Coluche qui chantait et qui avait fait venir beaucoup d'autres artistes pour participer. Ensuite, ce qu'on appelle les chansons des enfoirés, c'est tous les ans, il y a un concert des enfoirés sur un thème particulier qui a été longtemps écrit d'ailleurs par Jean-Jacques Goldman et depuis 4-5 ans, c'est par quelqu'un d'autre et notamment par son fils. Mais à chaque fois, c'est un thème différent. Donc les paroles n'ont rien à voir. Les paroles ont à voir avec le thème du concert des enfoirés.
D'accord. Et le dernier enregistrement a lieu le 17 janvier, je crois, à Bordeaux.
Absolument, le concert des enfoirés a lieu tous les ans début janvier. Il y a toujours un certain nombre de concerts. Il y en a 5 ou 6 par an, je crois, et il y en a toujours un qui est enregistré par TF1. C'est celui-là qui est passé le vendredi de la collecte.
Voilà. Avec des célébrités, on va dire, plus actuelles, peut-être.
Voilà. Il y a toujours ceux de base. Hein, voilà. Il y en a toujours un groupe de base qui sont là tous les ans. Et à chaque fois, il y a des nouveaux qui arrivent parce que ce sont des nouveaux venus sur la scène culturelle ou sportive.
D'ailleurs, c'est ça qui est assez formidable, c'est que cette initiative créée il y a presque 40 ans maintenant est toujours reprise en main, reprise en voix par des jeunes personnalités, de nouveaux talents. Ça, c'est génial.
C'est une institution auquel, effectivement, plein de nouveaux ont envie de participer.
Je pense que Coluche serait à la fois un peu désespéré de voir que malheureusement, ce qu'il pensait être provisoire est en fait un provisoire qui dure depuis très très longtemps et qui va encore durer. Mais en même temps, il serait fier, je pense, que son flambeau soit repris comme ça, avec autant de talent.
Je pense qu'il serait surtout très triste.
Oui, voilà. Mais bon, il a quand même créé quelque chose qui est incroyable et formidable, quoi. Mmh. Voilà. Alors, souvent, les gens, comme vous l'avez dit, d'ailleurs le logo a tendance un peu à provoquer ça, pensent que les restos, c'est simplement limité à l'aide alimentaire, mais alors pas seulement.
Donc l'aide alimentaire, ça reste quand même la raison de base pour laquelle les gens viennent nous voir. Donc il y a l'aide alimentaire adulte, mais également produits bébés, par exemple, qui sont des produits qui coûtent extrêmement cher, et donc pour les familles qui ont des jeunes enfants, des bébés, jusqu'à 18 mois, c'est très nécessaire. Et puis après, quand ils viennent, donc il y a tout un accueil, c'est pas juste de faire ses courses, on discute avec les gens, on se rend compte bien souvent qu'ils ont des besoins autres. Du fait qu'ils sont démunis, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Par exemple, des besoins de vêtements, ça c'est des choses qu'on distribue de façon courante, des jouets pour les enfants, mais aussi, par exemple, des cours de français pour ceux qui sont arrivés récemment en France, des cours vraiment... Alors il y a plusieurs niveaux, mais il y a vraiment le niveau débutant, des sessions d'avocats, des aides à la gestion budgétaire, une aide à l'accès au droit, parce qu'arriver en France, l'administration, c'est quelque chose d'assez compliqué, surtout quand
même
on n'a pas l'habitude.
Même pour les Français.
Même pour les Français, c'est compliqué. Alors vous imaginez quelqu'un qui arrive et qui ne maîtrise pas la langue. Donc on l'aide à avoir accès, par exemple, à la caisse d'allocation familiale, ou à la sécurité sociale, ou à Pôle emploi. Voilà des exemples. D'aide que nous pouvons apporter aux familles en complément de l'aide alimentaire.
C'est ce qu'on appelle l'aide à la personne. C'est-à-dire qu'on pense bien qu'avoir faim, donc qu'on donne à manger, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que les gens puissent avoir ce qu'on appelle l'estime de soi, c'est-à-dire effectivement de quoi s'habiller correctement. On a des accords avec des écoles de coiffure aussi, pour toujours pareil pour l'estime de soi. Là, on a parlé beaucoup d'accès aux droits, mais il y a beaucoup d'autres choses, parce que manger, c'est bien, mais la culture, c'est bien aussi. Donc, on a ce qu'on appelle l'accès à la culture aussi, et l'accès à la culture, c'est pouvoir fournir des places de cinéma, fournir des places de théâtre, mais c'est aussi, et ça a commencé cette année dans le Val-d'Oise, c'est accompagner les gens vers les vacances aussi, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'enfants qui sont en région parisienne, qui n'ont jamais vu la mer. Et donc, le but, c'est de les accompagner pour que tout soit organisé, que ce soit très simple pour eux. Et pour une somme minime, on a ces trois familles cette année sont parties, et qui sont parties 8 jours. Donc, au bord de la mer, c'était la première fois qu'ils partaient en vacances, et notamment au bord de la mer. Et ça, c'est essentiel.
Bien sûr. Et pour les familles, ça marque, ça change la vie, on va dire. Et y compris pour les enfants qui, au moins, quand ils rentrent à l'école, ils disent « Moi aussi, je suis parti en vacances. »
Absolument. Eux, ils ont aussi quelque chose à raconter à leurs copains. Ouais. Ce qu'ils ont vu en vacances, la mer, etc. Et ça, c'est essentiel.
Voilà, le récit qu'on peut faire de soi-même, comme vous dites, la confiance en soi, c'est essentiel, quoi. Alors, vous parliez, monsieur, de... l'aide aux étrangers qui arrivent en France. Et je crois aussi qu'il y a, notamment, ça s'est passé depuis 2 ans pour ceux qui arrivent d'Ukraine, les réfugiés d'Ukraine. Je crois que vous avez mené une action un peu spécifique, en tout cas au niveau national.
Donc pour les Ukrainiens, donc bien entendu, on les a accueillis. Souvent, ils étaient fort démunis, ils parlaient pas français, ils savaient pas trop où aller. Donc on a fait par nous-mêmes tout ce qu'on a pu, et on les a également orientés vers des services d'hébergement d'urgence pour aussi qu'ils puissent trouver de quoi se loger en arrivant.
Autre particularité, alors bien sûr ça ne concerne pas le Val-d'Oise, ça concerne plutôt Paris, mais la Véronique, la péniche du cœur. Très belle aussi. Quoique on a dans le Val d'Oise, on a Conflans, on a aussi des péniches. Alors peut-être, qu'est-ce que c'est que cette péniche du cœur ?
C'est un hébergement donc flottant. Hein. C'est la péniche, elle est amarrée à côté de la gare d'Austerlitz, qui accueille en accueil de nuit une 50aine de personnes tous les soirs pour leur donner un abri pour la nuit.
Voilà. Et je crois qu'elle a été rénovée récemment.
Oui, elle a été carrément changée. C'est une nouvelle péniche qui est là maintenant, plus confortable, plus aux normes, on va dire, peut-être mieux chauffée aussi. Voilà.
C'est en plus un élément très, très particulier pour les restos, la péniche, parce que l'hébergement, normalement, c'est pas la tasse de thé des restaurants du cœur. Oui. On est en relation avec des centres d'hébergement, etc. Mais on a quelques éléments comme ça, et la péniche du cœur est très connue pour ça, justement, parce que c'est un des rares éléments d'hébergement au sein des restos du cœur.
Alors, j'ai vu aussi que durant le Covid, les restos du cœur, alors là, on n'est plus dans l'assiette, on va dire, mais on favorisait la vaccination des personnes qui en avaient besoin.
Donc, on a noué à cette occasion-là un partenariat avec la Sécurité sociale. Et il y a des personnes de la Sécurité sociale qui sont venues dans les centres pour prendre des rendez-vous de vaccination. Et l'opération, donc ça s'est passé dans 3 centres, dans les 3 plus gros centres du Val d'Oise, à Argenteuil, à Osny, à Sarcelles. Et l'opération a rencontré un grand succès. On compte par centaines le nombre de rendez-vous pris pour des vaccinations. Alors évidemment, les restos ne vaccinent pas, on n'est pas médecin, donc on renvoie vers le secteur médical, mais donc avec l'aide de la Sécurité sociale.
Voilà. C'est un peu les vaccins du cœur, on va dire. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a dû sauver plusieurs dizaines de personnes, ça, assurément, grâce au vaccin. Voilà.
Et je voudrais rebondir sur la question sur la période Covid, pour dire que pendant cette période qui était très difficile, les restaurants du cœur n'ont jamais fermé. Nous avons toujours pu assurer pour tous, enfin pour tous ceux qui en avaient besoin, notre service essentiel de distribution alimentaire. Ça n'a jamais cessé. On a toujours eu les bénévoles qu'il fallait, et les bénéficiaires. On a adopté nos procédures, évidemment. On a respecté tous les gestes barrières. On a fait de la distribution on allait apporter à l'entrée du centre plutôt que de laisser rentrer les gens dans les centres. Mais on a toujours, sans arrêt, pendant tout le Covid, assuré la distribution.
Alors, l'antenne valdoisienne des restos a été créée en 1999, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de restos avant.
Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant. Au contraire, dès 1985 et la création des restos, il y a eu de l'activité de distribution alimentaire dans le Val d'Oise. Par contre, en 1999, a été créée l'Association départementale du Val-d'Oise en tant qu'association juridiquement indépendante pour mieux structurer l'activité, être au plus proche du terrain, avoir des centres de décision proches des besoins. Donc cette association, elle a eu dans un premier temps son siège à Pontoise, ensuite à Hérouville et maintenant à Argenteuil, et gère l'ensemble du Val-d'Oise. Il y a 13 centres de distribution. On n'a pas parlé des maraudes, mais il y a également des maraudes qui circulent tous les soirs de la semaine. Deux chantiers d'insertion, il y a un entrepôt. Environ 30 000 personnes sont accueillies par les restos chaque année.
Sur le Val-d'Oise.
Sur le Val-d'Oise, et on leur distribue un peu plus de 2 millions de repas chaque année.
2 millions de repas chaque année distribués dans le Val-d'Oise.
Absolument.
C'est assez impressionnant.
Donc c'est effectivement assez colossal. Et je pourrais dire que pour arriver à assurer avec une régularité, une qualité également, parce que ce n'est pas juste des pâtes, c'est des repas équilibrés, qui doivent être livrés à temps en fonction de la demande, dans le respect total des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire qui s'appliquent au resto comme ils s'appliqueraient à n'importe quel distributeur, eh bien ça réclame une organisation, une logistique et, je le cite en dernier, mais c'est fondamental, beaucoup de bénévoles pour assurer le fonctionnement de cette organisation.
Combien de bénévoles à peu près?
Donc pour le Val-d'Oise, 700 bénévoles à peu près, réguliers.
Ouais.
Auxquels s'ajoutent à peu près 200 bénévoles ponctuels, par exemple pour la collecte ou pour des opérations paquets cadeaux, par exemple, au moment de Noël.
700 bénévoles, c'est quand même aussi un très très beau chiffre, on va dire. Alors comment est-ce qu'on devient bénévole? Est-ce qu'il y a des qualités particulières, des compétences?
Des compétences, on a besoin de toutes les compétences, parce qu'en fait, des bénévoles, on peut avoir des bénévoles qui vont venir une fois par semaine pour faire de la distribution alimentaire. Ça demande juste d'avoir de l'empathie, en fait, et de la communication aussi. Par contre, et de la motivation, bien sûr, et d'être attaché aux valeurs des Restos du Cœur. C'est avant tout ça. Mais après, ce que Jean-Michel venait de dire, c'est que c'est une véritable PME qu'il faut faire tourner. Et qui dit PME dit il faut des compétences à tous les étages, que ce soit dans la finance, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans la communication, que ce soit dans les ressources humaines. Donc en fait, on a besoin de compétences partout et de toutes les compétences.
D'ailleurs, quand on regarde sur votre site, le site Resto du Val-d'Oise, vous publiez des petites annonces de recherche. Là, par exemple, j'ai regardé très récemment, de fin janvier, vous recherchez par exemple un chauffeur.
Oui, ça c'est essentiel.
Ouais.
Ça fait partie des demandes régulières, parce qu'évidemment, et puis qui sont récurrentes, parce que pour alimenter, pour approvisionner tous les centres de distribution à partir de notre entrepôt départemental qui est Argenteuil, il faut beaucoup de chauffeurs. Donc ça. Et comme il y en a régulièrement qui s'en vont pour des raisons multiples et variées, à chaque fois, on est en besoin de chauffeurs sans arrêt.
On peut dire que tous les véhicules qui assurent cette fonction font moins de 3,5 tonnes, donc il suffit d'avoir le permis B.
Voilà.
Besoin du permis poids lourd.
Précision importante.
Ouais. Sauf que quand on dit il suffit, il faut être à l'entrepôt d'Argenteuil très tôt le matin, parce qu'il faut faire les tournées, et que les tournées pour aller approvisionner les centres, ça ne se fait pas à 4 heures de l'après-midi, mais ça se fait tôt le matin.
Donc avoir le permis B, c'est ça, c'est
oui.
et être matinal.
Absolument.
Voilà. Alors, j'ai vu aussi que vous recherchiez un bénévole référent partenariat en atelier chantier d'insertion. C'est quoi un chantier d'insertion?
Alors, parmi nos missions, nous essayons de réinsérer par l'emploi un certain nombre de personnes qui, par eux-mêmes, par elles-mêmes, ne trouveraient pas d'emploi. Donc, pour cela, ce sont des personnes qui sont agréés par Pôle emploi, France Travail, on dit maintenant, qui à qui on propose d'exécuter un contrat à durée déterminée d'insertion dans deux métiers différents. Le métier de la logistique, donc ça se déroule à l'entrepôt d'Argenteuil, et également le métier de rénovation d'appartements de peinture. Donc les gens ont des contrats, donc c'est des contrats de 6 mois renouvelables jusqu'à 2 ans maximum. Donc on leur apprend le métier. Quelquefois ils l'ont eu, mais il y a très très longtemps, ils sont sortis des circuits d'emploi. On leur réapprend également comment se comporter en milieu professionnel, arriver à l'heure, avoir appliqué des procédures, avoir un chef, voilà, à s'habiller correctement. On leur apprend également à faire un CV, on a des contacts avec des entreprises. Donc vraiment, on fait tous nos efforts pour les réinsérer dans la vie professionnelle. Et notre taux de succès, on a 60%, entre 50 et 60% selon les années, de ce qu'on appelle de sortie dynamique, c'est-à-dire de gens qui trouvent un contrat de travail ou au minimum une formation rémunérée.
Voilà, vous voyez qu'on est bien loin de la simple aide alimentaire en fait.
On est surtout connu pour l'aide alimentaire, mais derrière ça, il y a beaucoup de gens. Et donc il y a des professionnels pour encadrer cet ACI, chantier d'insertion, mais également des bénévoles là encore. Ça fait partie de ces métiers nombreux et variés pour lesquels on a besoin de bénévoles.
Alors j'ai vu aussi que vous recherchiez un adjoint responsable ramasse, collecte et don.
Oui, oui, effectivement. on a beaucoup de difficultés sur cette recherche-là.
Pourquoi?
Disons que c'est pour me seconder et éventuellement aussi me remplacer par la suite, puisque bon, je voudrais aussi, tout en restant au Resto du Cœur, aller dans d'autres directions. Comme on a vu tout à l'heure, il y a peut-être 25 métiers différents. Donc, entre ceux qui sont auprès des bénéficiaires et ceux qui n'y sont pas, comme moi, je ne suis pas auprès des bénéficiaires, puisque, bien sûr, il y a ce qu'on appelle du back-office, donc tout l'approvisionnement, on ne connaît pas les bénéficiaires. Et donc, moi, je voudrais effectivement les connaître un peu plus. Et donc, c'est pour ça qu'on recherche effectivement un adjoint responsable, dont Ramasse Collect, donc, qui est un bloc assez important. Donc les dons, ça va correspondre à plusieurs types de dons. Hein. Donc on va avoir les dons provenant des agriculteurs, les dons provenant des plateformes logistiques, des industriels de l'agroalimentaire. Bon, il n'y en a pas énormément dans le Val d'Oise. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les ramasses dans les supermarchés. Hein, donc on va donc chercher ce que les supermarchés ne pourront pas vendre ou n'arriveront pas à vendre du fait des dates limites ou du fait de marchandises pas présentables.
Et donc là, ça correspond à une loi qui fait obligation aux grandes surfaces, je crois, de ne pas jeter la nourriture,
tout à fait,
mais d'essayer de la donner à des associations.
C'est une loi qui a un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de pénalisation. Donc le droit pénal ne prévoit pas d'amende pour ceux qui ne font pas bien leur travail. Et donc ça n'est pas forcément toujours parfaitement fait par ceux qui en ont l'obligation.
Est-ce que vous arrivez quand même à collecter suffisamment de denrées? Est-ce que l'essentiel des denrées que vous redistribuez vient des grandes surfaces?
Par la collecte nationale, oui. Parce que la collecte nationale, c'est quand même un morceau qui représente 70 tonnes hein, sur les 1500 tonnes, je crois.
Toujours sur le Val d'Oise.
Oui, pour le Val d'Oise, à peu près, je crois que c'est 1500 tonnes dont on a besoin pour la distribution. Donc la collecte nationale en représente 70 tonnes à peu près. Mais il y a également d'autres collectes. C'est pour ça qu'on dit don, ramasse, collecte. Collecte auprès des écoles. Des entreprises.
Les cantines scolaires, quoi. Les cantines scolaires.
C'est même pas. Enfin, oui, ça peut aussi être ça, mais c'est souvent l'enseignant qui, pour éduquer les enfants à la citoyenneté, va leur expliquer ce que c'est. Et donc, organiser une collecte dans l'école, tout simplement. Et donc, nous, ensuite, on va chercher cette marchandise. Alors, ça peut être de l'alimentaire, mais pas uniquement. On parlait tout à l'heure de la périculture. Un siège auto, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en plus de ça, ça dure très très peu de temps en termes d'utilisation. On n'utilise ça que quelques années. Et pourquoi pas le donner? Donc tout ça, ça fait partie des collectes. Les entreprises aussi qui font beaucoup de collectes. Alors, aussi pour leur image.
Oui, bien sûr.
Tant mieux. Ouais. elles nous prêtent aussi des bénévoles parce qu'il y a ce qu'on appelle la journée de solidarité dans le droit du travail, donc qui qui oblige donc un certain nombre de les gens qui travaillent à donner une journée pour la solidarité. Et donc ils peuvent aussi la donner, par exemple, pour la collecte nationale ou pour une autre action près de chez nous, pourquoi pas.
Pour vous donner un chiffre peut-être un peu global, ce qu'on appelle dans notre jargon la substitution, c'est-à-dire ce qu'on nous donne qui vient en substitution de ce qu'on aurait dû acheter si on ne nous l'avait pas donné. Le taux dans le Val d'Oise est d'à peu près 25%. Au niveau national, il est plus près de 50%, mais le Val d'Oise, ce n'est pas un département agricole, ce n'est pas un département où il y a d'industrie agroalimentaire. Donc c'est pas mal, et 25% sur 2 millions de repas, ça veut dire quand même que c'est 500 000 repas par an qui nous sont donnés, donc c'est colossal. Oui.
Voilà, colossal, c'est quand même le chiffre, oui. Le chiffre qu'on va retenir, quoi, cette notion. Les gens, je pense que les gens n'imaginent pas.
Et après, puisqu'on parlait des bénévoles qui se chargent de ça, donc comme l'a très bien dit Gérard, on nous les donne des produits proches de la date de péremption, mais heureusement avant, parce que de toute façon, un produit périmé, on ne pourrait pas le distribuer. Et donc, en général, on a moins de 48 heures entre le moment où on nous donne le produit et le moment où on peut le distribuer. Donc, ça veut dire que là aussi, l'organisation qui est derrière, et c'est donc toute l'équipe de Gérard, des non-ramasse collectes et de l'adjoint qu'on recherche, qui doit animer ça. Voilà.
Alors, tout le monde sait bien que la pauvreté a augmenté considérablement ces dernières années, hein, puisque 22% de personnes supplémentaires ont été prises en charge par les Restos du Cœur au niveau national.
Faire le bien.
On ne sait pas bien comment faire, mais faut plus se taire.
Ça n'a l'air de rien.
Alors pour conclure, est-ce que je peux vous demander quelles ont été vos motivations pour rentrer au resto?
Je vais peut-être essayer de répondre, même si bon, c'est pas toujours facile de répondre à ce genre de questions.
Oui.
Mais je crois que plutôt que de rester chez moi, j'avais envie de continuer à avoir une activité. Et une activité envers les autres, hein, pour essayer de faire quelque chose de ma vie qui serve à quelque chose. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a tout un tas d'associations. Hein. Alors pourquoi les Restos du Cœur? Les Restos du Cœur pour deux raisons, trois raisons même. Parce que les valeurs des Restos du Cœur me conviennent parfaitement, parce que c'est une association apolitique et laïque, et parce que Coluche.
Voilà, on revient à notre point de départ. Merci Coluche. Monsieur Baer.
Je n'aurais pas mieux dit. Je peux juste rajouter que pour celui qui, en tout cas c'est mon cas, qui s'investit, moi en tant que président, je passe quand même énormément de temps, je peux dire que le soir, j'ai quand même pas l'impression d'avoir perdu mon temps, d'avoir été utile. Je dirais, dans l'estime qu'on peut avoir de soi, c'est très positif. Voilà.
C'est d'ailleurs un des objectifs des restos, c'est redonner l'estime de soi aux gens. Oui. Donc vous l'avez par
votre... assez bénévole.
Voilà, ça c'est pas mal. Monsieur Desnaud, votre motivation?
Disons que moi, quand je suis parti en retraite, de toute façon, j'avais toujours dans la tête de faire du bénévolat. J'ai frappé à quelques portes de certaines associations et bon, ils m'ont pas toujours répondu. Mais les Restos du Cœur m'ont répondu très très vite. Et effectivement, ils cherchaient à l'époque un chauffeur. Bon, j'ai cette qualité que je peux conduire les camions. C'est ce que beaucoup de gens peuvent faire, mais disons qu'il y a aussi il faut avoir une certaine aisance quand même, hein, pour conduire des camions dans des zones urbaines comme ici. Ouais. Donc je suis rentré au Resto du Cœur comme ça, et après je me suis fait avaler pour en faire de plus en plus.
Voilà.
Donc voilà.
Très bien, écoutez, merci à Madame Marie-France Ligeret, Monsieur Gérard Desnos et Monsieur Jean-Michel Baer. Pour les Restos du Cœur, le combat continue. Merci à vous tous, en tout cas. C'était Didier Delatte sur IDFM. À la semaine prochaine, même heure, même adresse. Culture, solidarité, environnement, il s'en passe de belles dans notre département. Et ce sera dans notre rendez-vous compte, évidemment.
Et merci à vous. Merci de nous avoir accueillis.